et une nouvelle édition de l'économie en question. Et nous parlons bien sûr aujourd'hui de la France, celle que trouvera Emmanuel Macron, le président élu le 7 mai. Une France plutôt mieux engagée sur la voie de la reprise qu'en 2012, dans un contexte mondial également plus encourageant. Mais en dépit, là encore, d'une très légère amélioration, une France qui reste depuis plus de 30 ans engluée dans des taux de chômage élevés et qui ne parvient pas à vaincre de fortes disparités territoriales et sociales. Voici pour le contexte. Alors comment ce quinquennat, qui veut faire la preuve d'un renouveau politique, va-t-il aborder maintenant les grands dossiers économiques? À quelles échéances, les fameux 100 jours, donneront-ils le ton avec le lancement des chantiers les plus importants, ceux qui mettent du temps à produire leurs effets, comme l'assurent les experts d'En Marche? On pense bien sûr à la loi travail, l'un des trois sujets, avec la simplification et la moralisation de la vie publique sur lesquels Emmanuel Macron veut aller très vite. Pour d'autres, s'agira-t-il plutôt de poursuivre la politique de son prédécesseur, dont il a été conseiller puis ministre, de la corriger ou de l'amplifier, et en tout état de cause, avant de décider, de demander des évaluations sur les mesures qui ne le convainquent pas. C'est de tout cela que nous vous parlons ce matin. Réformes en cours, réformes à venir, où sont les priorités économiques du président ? Et nous sommes en compagnie de Christine Herrel, qui est aujourd'hui directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, Olivier Pastret, professeur d'économie à Paris 8, Dominique Plion, professeur d'économie financière, Université de Paris 13 et membre du conseil d'administration d'Attaque France. Et en toute fin d'émission, la chronique de Marie Bellan, journaliste aux Échos, avec son chiffre que j'aurais également demandé à nos invités de nous apporter. On espère avoir le temps de les entendre tous les quatre à ce sujet. On commence donc. Réformes en cours, réformes à venir. Avec assez logiquement, je pense, la loi travail, le président, nouveau président entend agir vite sur cette question prioritaire pour lui, en recourant, on le sait, aux ordonnances. On ne va pas rester deux sur ces points de procédure parlementaire, mais je rappelle quand même qu'il souhaite boucler pour fin août, début septembre. Explication, aussitôt les députés élus, le Parlement sera saisi d'un projet de loi d'habilitation. On part bien entendu de ce qu'aura fait le précédent gouvernement avec la loi El Khomri, réformant un code du travail qui, je le rappelle, loi adoptée en juillet 2016 et qui a connu, pas la peine de se... Enfin, on s'en souvient tous, une très très forte mobilisation contre elle. Trois textes donc. Le premier, l'inversion de la hiérarchie des normes. Une deuxième ordonnance sans doute prévoira la fusion des institutions représentatives des personnels. Et une troisième, le plafonnement des dommages et intérêts accordés par les prud'hommes. Celle-ci risque réellement de faire réagir. Je me tourne vers Christine Herrel, directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail au CNAM. Nous avons très souvent parlé des taux de chômage, comparés également avec d'autres situations européennes. Que dites-vous, Christine Herrel, de ce qui se prépare avec cette loi travail ?
Alors si on est sur la question de la continuité ou de la rupture, je pense que pour le coup on est plutôt dans la continuité, puisque ce qui s'annonce c'est la reprise en fait de dispositions qui étaient déjà en discussion au moment de la loi El Khomri et qui ont été retirées du texte, notamment ce qui concerne les prud'hommes par exemple, c'est exactement la même disposition. Donc on n'est pas du tout ici dans des choses nouvelles, plutôt dans une poursuite de tendances déjà engagées. Alors moi il y a deux choses qui me semblent devoir peut-être être soulignées ou des questions qui me semblent assez importantes. La première c'est la question de l'évaluation que vous avez évoqué en introduction. Il me semble qu'un des problèmes, c'est que là, du coup, on va continuer sans avoir rien évalué, puisque du coup, on a quand même une loi, qui est la loi El Khomri, sur laquelle finalement, on n'a pas de recul et on ne peut pas observer réellement ce qui s'est passé dans les entreprises depuis la mise en œuvre de ce principe donc, d'inversion de la hiérarchie des normes sur certains sujets. Donc voilà, ça, c'est un premier problème, il me semble. Si on veut aller dans cette logique d'évaluation, il faut prendre le temps. Et là, ce n'est pas ce qui va se passer. La deuxième chose, c'est la question de la méthode ou de la façon dont va se passer la négociation sociale, la discussion autour de ces sujets, puisque si on regarde les exemples de pays européens qui ont effectivement fait des réformes intéressantes du marché du travail, en général, c'est quand même sur une logique donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi des contreparties accordées aux salariés, accordées aux syndicats. Or là, en fait, ce qu'on vient d'évoquer, c'est ça va dans un sens qui est plutôt un sens de flexibilisation. On voit pas vraiment le volet, pour le coup, plus sécurisé. Il est annoncé dans d'autres dispositifs, mais dans d'autres dispositifs qui, eux, vont venir après. Donc la question, c'est quand on fait une réforme du marché du travail, la logique donnant-donnant, il me semble qu'elle doit venir tout de suite. Alors que là, on est dans quelque chose qui est encore, en termes de séquence, on a l'impression qu'on va commencer effectivement par le volet plus décentralisation, dérégulation, sans avoir vraiment de certitude sur les mesures.
Vous pensez qu'il aurait fallu au mieux conduire les deux en même temps?
Il me semble qu'il est mieux, en tout cas, que la discussion porte sur les deux en même temps. Et là, dans l'entame de méthode, on ne sait pas exactement comment va se passer la négociation.
Sur le principe, quand même, comme expert du chômage et du travail, bien, vous pensez que c'est quand même, ce sont des dispositions encourageantes?
Alors moi, j'ai toujours été très sceptique sur les effets sur l'emploi et le chômage de dispositions du type de celles qu'il y a dans la loi El Khomri et de la décentralisation de la négociation, par exemple, ou de la réforme des prud'hommes qui est proposée là. Donc je reste sur cette idée que, en termes de création d'emplois, en termes d'effets sur le chômage, on est vraiment dans une situation très incertaine. Donc j'aurais aimé effectivement avoir plus d'évaluations sur ce qui se passe réellement dans les entreprises. Et donc, comme je le dis, on ne l'a pas.
Avant de prononcer, finalement.
Donc voilà. Et il me semble qu'en tout cas, en termes d'efficacité... ce qui est certain, c'est que ce type de disposition ne suffit pas. C'est pas avec une loi de ce type-là qu'on va renverser les tendances en matière d'emploi et de chômage. Il faut d'autres choses, à la fois en termes de politique, donc de formation, etc. On aura l'occasion d'en parler, ou aussi d'évolution sur les politiques, les orientations des politiques européennes, les politiques d'investissement, enfin d'autres choses qui, pour le coup, sont vraiment des dispositions qui peuvent créer une dynamique d'emploi.
Et qui sont annoncées.
Par définition, ça n'a strictement rien à voir. Je veux dire, la création d'emplois, c'est les entreprises qui décident de créer des emplois. Alors après, il y a un cadre qui est le code du travail, mais dans les dispositions qu'on envisage, il y a des dispositions plutôt favorables à l'investissement des entreprises, donc à la création d'emplois.
On va y revenir, mais c'est, qui sont peut-être celles qui accompagnent effectivement les mesures, mais Christine Herrel nous a bien parlé de la notion de rythme. Dominique Plion.
Oui, je voudrais rebondir sur les deux idées que vous avez, Christine Herrel, vous avez développées, c'est la question de l'évaluation, puis après aussi de la méthode. Pour dire qu'en effet, ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est d'amplifier clairement la politique qui a été menée par le précédent gouvernement, ou le gouvernement sortant, plus exactement. Moi, je voudrais quand même dire en termes d'évaluation, ça fait quand même, vous l'avez dit Dominique dans l'introduction, 30 ans qu'on fait des réformes, il y en a eu 17 au total du marché du travail, 17. On se retrouve avec des taux de chômage comparables à ce qu'on avait dans les années 90. Je rappelle que là, une des réformes majeures symboliques d'il y a 30 ans, en 1987, suppression d'autorisation administrative de licenciement. Depuis, on a égrené les réformes presque tous les deux ans, il y en a eu 17. Donc je veux dire, est-ce qu'on, en termes d'évaluation, est-ce qu'on peut dire que c'est efficace? Je crois que les auditeurs comprendront tout de suite, auront tout de suite la réponse. Deuxièmement, la question de la méthode. Là, il y a un vrai quiproquo. Le président dit, enfin en tout cas ses conseillers aussi disent, on a gagné les élections, donc on va pouvoir appliquer notre programme. Le problème, c'est qu'on sait qu'Emmanuel Macron a gagné les élections pour une bonne partie avec des votes de gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec son programme et qui voulaient battre Marine Le Pen. Donc, il y a aussi ce contexte très important de légitimité. Et donc, s'il passe en force avec les ordonnances... Et dans un contexte électoral bien précis qui a amené son élection, il va y avoir, dès le début de son quinquennat, des tensions et des oppositions qui n'augurent pas de bonnes choses pour la suite.
Ouais. Olivier sondage parlait... quand même, Dominique Plion, très récent, les Français sont pour que Emmanuel Macron applique rapidement ses réformes.
Oui, mais sondage aussi, 60% des Français ne veulent pas qu'il ait une majorité. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent qu'ils ne veulent pas lui donner un blanc-seing pour ses politiques. Et pour répondre à Olivier, qui disait des choses intéressantes, je voudrais compléter. Merci. C'est que les entreprises, elles n'investissent pas uniquement parce qu'on plafonne les indemnités de licenciement. Elles investissent parce qu'elles ont des débouchés, parce qu'elles ont confiance, parce qu'elles ont un point de vue clair sur l'avenir. En ce moment, je ne vois pas dans les mesures qui sont proposées, à l'échelle française d'ailleurs et même européenne, ce qui pourrait décider les entreprises à investir davantage. Il y a une légère reprise d'investissement.
Si, la conjoncture est meilleure, on l'a signalé
voilà,
en commençant.
Elle est un peu meilleure, mais on voit qu'il y a une légère reprise d'investissement. Le niveau d'investissement productif en France est à peine supérieur à ce qu'il était avant la crise. Il faut le rappeler, donc c'est quand même pas brillant, malgré les mesures très importantes qui ont été prises par le gouvernement Hollande dans les années qui viennent
Pastrée.
De passer.
Pour investir, il faut avoir confiance. Et on peut espérer que le nouveau président donne confiance et donne envie. Je prends un exemple parmi d'autres. L'idée de stabiliser les textes de loi, de ne pas changer en permanence les dispositions fiscales, c'est plutôt rassurant pour les chefs d'entreprise. Donc il y a un environnement extérieur qui est plutôt bon et malgré tout un certain nombre de dispositions qui devraient pousser à l'investissement. Mais je voulais vous livrer un scoop à cette antenne. On parle beaucoup du futur Premier ministre. Moi, je peux vous donner son nom. Le futur Premier ministre, c'est Laurent Berger. Ceci revient aux discussions qu'on va continuer à avoir sur la variable sociale.
On les suivra de près.
Il est clair que la CFDT va avoir un rôle majeur dans le succès ou le non-succès de ce gouvernement.
Tout à fait. Revenons sur d'autres mesures encore, on va les balayer un petit peu vite, hein, vous m'en excuserez les uns et les autres. Concernant les entreprises, Olivier Passerey y a déjà fait allusion. Donc on souhaite baisser l'impôt sur les sociétés, poursuivre les baisses de charges, cela aussi a été engagé. Hein. On est encore dans la continuité en fin de quinquennat à Hollande. Or Emmanuel Macron souhaite le faire au début, pour les raisons qu'il a expliquées. Un programme qui prévoit donc non pas de supprimer le CICE, le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi, mais de le transformer en baisse de charges en, je cite, renforçant des allègements au niveau du SMIC pour atteindre zéro charge, en gros, favoriser l'embauche de salariés peu qualifiés. Ce qu'a fait Hollande, ce dispositif, on le rappelle, hein, c'était mis en place en 2013 pour les entreprises qui employaient les salariés et c'était un crédit d'impôt sur les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC. Christine Herel, on va dans la bonne direction. C'est assez partagé d'ailleurs les avis sur le succès ou pas du CICE.
Oui, tout à fait, puisque c'est ce que montre, enfin là pour le coup, il y a eu des évaluations qui sont encore en cours et avec plutôt des résultats qui sont mitigés. Alors en tout cas, qui sont décevants en termes de création d'emplois. Qui après sont plus encourageants du point de vue de paramètres qui touchent à la santé des entreprises, mais qui ne se traduisent pas directement par des effets importants sur l'emploi. Donc, qui est à court
santé
terme en tout
financière.
Cas, santé financière, mais la santé financière, c'est pas nécessairement les créations d'emplois.
Ce qu'on appelle une condition nécessaire et pas suffisante.
Voilà, exactement.
Ce que je peux dire, c'est que le groupe de suivi, parce qu'il y a un groupe de suivi, on parle d'évaluation du CICE, les rapports qui sont sortis sont des rapports extrêmement, comme vous l'avez dit, extrêmement mitigés, même plutôt négatifs, en disant les objectifs qui étaient escomptés n'ont pas été atteints, en particulier en termes d'emploi. Oui, mais aussi par rapport à la timidité de la reprise de l'investissement, parce qu'il y a un frémissement, c'est vrai, de l'investissement, mais c'est extrêmement faible, la reprise d'investissement. Et donc, les entreprises ont des marges, mais elles n'investissent pas, ou très peu, et elles n'embauchent pas. Donc, problème.
Problème. On continue avec d'autres mesures en matière de fiscalité. Priorité d'Emmanuel Macron, là encore, concerne le pouvoir d'achat des salariés. Nous y voilà, parce que voici les mesures de contre-mesure, si vous voulez, à ce que vous avez signalé tout à l'heure, Christine Herel. Suppression des cotisations salariales, maladie et chômage. Un gain de pouvoir d'achat pour ceux qui travaillent, nous assure-t-on, en rappelant que cela concerne, et ça me paraît intéressant, aussi bien les salariés que les indépendants. Voilà une nouveauté tout de même qui pourrait donner de l'effet en termes d'emploi, Christine Herel.
Alors, en termes d'emploi, là encore, c'est très incertain sur ce type de disposition. En termes de pouvoir d'achat, évidemment, s'il y a des baisses de cotisations salariales, en tout cas, à court terme, on aura des effets favorables sur le pouvoir d'achat. Ensuite, tout dépend à plus long terme de la façon dont vont se passer les négociations salariales dans les entreprises, du rapport de force entre les salariés et les employeurs, qui actuellement est plutôt quand même défavorable aux salariés. C'est dans la situation dans laquelle on est. Et par ailleurs, donc, en ce qui concerne ce type de disposition, je pense qu'une chose qui est intéressante effectivement dans les propositions d'Emmanuel Macron, c'est cette réflexion sur les statuts et sur le fait d'essayer d'unifier effectivement les droits auxquels
de lisser un peu
avoir
parce que c'est assez illisible,
différents, on est tous d'accord. Voilà, différents types de travailleurs selon leur statut salarié ou indépendant. Je pense que ça, c'est des choses qui sont plutôt effectivement intéressantes dans ce programme.
Olivier Passerey.
Il y a un point qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un vrai souci de défendre les salariés les plus fragiles. Si vous vous posez la question, est-ce que tout ça est révolutionnaire, la réponse est clairement non à tous les niveaux.
En tout cas, dans l'intention.
Mais quand même, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites en matière de limitation des CDD de courte durée, en matière d'amélioration de la situation des chômeurs par rapport à la formation professionnelle. Dans tous ces domaines-là, il y a quand même une prise en compte du fait qu'il faut, s'il y a de la flexibilité, et il en faut, il faut aussi de la sécurité. Alors, est-ce que l'un, dans le temps, va correspondre à l'autre? Est-ce que les salariés vont perdre, ils vont le gagner? La question reste ouverte. Mais enfin, en tout cas, il y a cette préoccupation qui est quand même importante.
De rendre du pouvoir d'achat et de s'occuper effectivement des travailleurs les moins qualifiés. On va revenir sur la formation professionnelle.
Dominique, rendre du pouvoir d'achat. Attention, n'oublions pas qu'il y a une hausse de la CSG de 1,7 point.
Tout à fait.
Donc, ce qu'on prend, on donne d'un côté, on le reprend en grande partie de l'autre. Donc, en ce qui concerne
je précise, Dominique Guillon, qui pour les travailleurs sera inférieur au montant des cotisations qui sont supprimées.
Oui, c'est ce qu'ils disent. Oui, oui. C'est ce qu'ils disent. Il y a une différence sur
les perdants, en réalité, devraient être plutôt les 60% de retraités qui payent une CSG à taux plein.
Attendons de voir, justement, parce que là, c'est des chiffres qu'on donne, mais il est clair qu'il faut financer ces mesures. Baisse des cotisations, hausse la CSG. Donc, le net des deux, on peut, il est dit que on peut, bon, prenons acte, il est dit que ça sera favorable aux salariés, aux ménages, mais moi j'en suis pas forcément convaincu. Attendons de voir pour le moment.
C'est aux vraiment salariés, oui, peut-être pas aux ménages. Oui,
c'est vraiment. Alors en ce qui concerne la protection des salariés plus précaires dont parlait Olivier, c'est vrai que c'est très important. Toutes les réformes du marché du travail, c'est la précarisation supplémentaire. La loi El Khomri en fait partie. Alors dire on va les protéger davantage, c'est très bien, mais en même temps, est-ce que c'est protéger davantage les salariés de dire qu'on supprime ou on unifie les organisations représentatives des salariés dans les entreprises et que on affaiblit à bien des égards leur capacité de représentation? Deux, est-ce que c'est favoriser la protection des salariés que de dire les négociations se feront désormais de plus en plus au niveau de l'entreprise où le rapport de force est très souvent défavorable aux salariés et aux syndicats? Bon, voilà, protection d'un côté, mais moindre protection de l'autre. Donc moi, je demande à voir aussi, je suis pas convaincu par l'idée qu'on aura une meilleure protection des salariés.
Formation professionnelle. Regarde, Olivier, vous l'ajoutez autre chose, Olivier?
Non, mais on demande tout savoir, hein, bien sûr. Il y a une vraie question, je reviens à mon Premier ministre, qui est le rôle des syndicats. En gros, pour ce qu'on voit, est-ce qu'on entend, est-ce qu'on lit, il n'y a pas du tout de mise à l'écart des syndicats. Il y a un essai d'amélioration du fonctionnement syndical en France. Et Dominique, vous n'allez pas me dire le contraire, le mouvement syndical en France est en crise d'une manière globale par rapport aux autres pays. De ce point de vue-là, je ne dis pas que ce qui va être fait est bien. Je dis qu'au moins, on essaie de faire bouger les lignes en matière de représentativité, en matière d'efficacité des syndicats, en matière de dépolitisation.
Bon, rappelons que Laurent Berger est opposé à l'implication des ordonnances.
Rappelons
Non, c'est intéressant. On va voir si Laurent Berger non. Enfin, en tout cas, il a émis des réserves très importantes sur le manque de négociations.
Des réserves. Il n'a pas dit opposé littéralement. Je demande à Marie Bellante des échos.
S'il y a une concertation réelle en amont, on n'est pas forcément opposé. Voilà, mais sous réserve qu'il y ait une vraie concertation au préalable.
Le rôle des syndicats est effectivement très important, me semble-t-il. Je trouve qu'Olivier Pastret a raison de le souligner, surtout quand on connaît le taux de syndicalisation des salariés en France, qui est très faible. Comme on le sait, hein, je crois, dans le privé, c'est de l'ordre de 6 ou 7%.
Non, même pas. C'est 3%.
Même pas. Formation professionnelle, enfin, un grand programme, Olivier Pastret l'a déjà mentionné, un grand plan de 15 milliards d'euros avec le CPA, le compte personnel d'activité, l'individualisation de la formation. Alors là, vous allez dire, ça enlève un peu de prérogatives aux syndicats, c'est vrai, puisque c'était les partenaires sociaux qui devaient le gérer. Emmanuel Macron souhaite davantage le contrôler. Mais est-ce que là encore, comme vient de le dire Olivier Pastret, il n'était pas utile de faire un peu de ménage, Olivier Pastret?
Non, mais attendez, la situation de la formation professionnelle est tchernobylienne. Il y a 35 milliards. Sur ces 35 milliards, tout le monde sait qu'il y a 20 milliards qui sont foutus en l'air pour financer les syndicats. À partir de là, l'idée d'individualiser les droits et de ne pas obliger les salariés à passer par des systèmes de formation qui sont inefficaces, ça va alors objectivement dans le bon sens. Je veux dire, ça n'a pas été... François Hollande n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de la réforme de la formation professionnelle. J'espère que Emmanuel Macron va avoir ce courage. Ce qui laisse pendant le problème du financement des syndicats. On revient à la question précédente, parce qu'aujourd'hui, en gros, ils prélèvent 20 des 35 milliards. Il va falloir les retrouver d'une manière ou de l'autre.
Christine Hérel. L'autre problème qui reste ouvert avec cette logique, donc on est sur une logique d'individualisation où effectivement on va donner le droit au salarié de lui-même gérer son accès à la formation. Mais du coup, on rentre dans une logique de fonctionnement qui est une logique marchande, où voilà, les salariés vont acheter leur formation à des organismes de formation divers. Du coup, après, il y a toute la question de comment on fait fonctionner vraiment ce marché et comment on garantit sa qualité. Donc, c'est une question qui est abordée hein, dans le programme de En Marche, la question de la labellisation des formations, etc. Mais ça laisse ouvert quand même, du coup, cette question de qui va un petit peu coordonner ce marché. Donc, est-ce que c'est Pôle emploi qui va diffuser l'information? On parle de conseil en orientation professionnelle, mais qui va s'en occuper exactement? Comment va se structurer ce marché? Ça reste une question ouverte aujourd'hui. Mais c'est effectivement, je pense que ça va dans le bon sens de donner le pouvoir aux salariés de prendre en main leur formation, mais il faut les accompagner et il faut aussi que le marché se structure de manière à garantir la qualité.
Et j'ajoute que cela, l'objectif est quand même d'aller vers les travailleurs les moins qualifiés, et il faut bien savoir et répéter que ce n'était pas ceux-là qui profitaient le mieux de la formation professionnelle. Elle était très souvent plutôt favorisée pour les cadres.
Oui, mais alors ça reste, oui, bien sûr, mais ça reste une difficulté parce que justement, donc ils n'iront pas tout seuls se former. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir.
Il faut
là,
les inciter,
il y a une question d'accompagnement et d'incitation, et c'est, ça ne sera pas tout seul.
Et idem pour l'apprentissage, on peut le dire, encore un sujet dont nous avons 100 fois parlé ici même et ailleurs, et qui n'avance pas, là encore. On a cantonné, nous dit Emmanuel Macron, dans les filières les plus techniques, les plus manuelles. C'est une erreur. Et il souhaite, là j'arrive aux universités un peu vite, mais ça va dans la suite, concernant notamment le post-bac, il souhaite imposer aux universités davantage de visibilité, là encore sur les formations. J'aimerais savoir, dit-il, combien d'étudiants ont un emploi une fois diplômés, combien poursuivent leurs études et combien iraient vers l'apprentissage.
Alors moi je trouve que ça c'est intéressant, mais la difficulté que ça pose encore une fois c'est si on veut, donc on revient à l'évaluation là en fait un petit peu, c'est savoir où vont les diplômés, pouvoir l'afficher, le suivre régulièrement, etc. Après là, ça pose une question de moyens, c'est-à-dire je pense que toutes les universités sont d'accord pour faire ça sur le principe, mais c'est coûteux parce que ça suppose d'avoir des dispositifs de suivi des sortants, des dispositifs de veille qui sont coûteux à mettre en place. Donc je pense que là il y a une question de moyens qui vont avec, à voir donc effectivement si les moyens accompagneront ce principe que je trouve bon pour le coup sur le fond.
Évaluation suivie encore.
Moi, j'ai juste une expérience personnelle. J'ai créé et dirigé une formation professionnelle dans mon université, en apprentissage, en alternance, qui marche extrêmement bien. Mais ça demande des moyens en personnel pour le suivi, pour l'organisation,
pour le suivi
des étudiants, pour aller voir sans arrêt les entreprises quand les étudiants sont en stage, etc. Et ces moyens, on ne les a pas. Donc on a des formations qui sont moins bien loties que celles qui sont créées dans le secteur privé de la formation, les écoles de commerce. Alors qu'on a tous les moyens de faire, toutes les capacités de faire ce travail le mieux possible. Et les résultats sont excellents parce que la plupart des étudiants trouvent un emploi. Hein. Enfin, en tout cas, la formation que j'avais créée, 80% des étudiants trouvent un emploi à l'issue de la formation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très efficace. Mais les moyens d'université sont
insuffisants.
Et j'ai vu que M. Macron ne prévoit pas d'augmenter sérieusement il l'a dit, hein, il veut stabiliser relativement les moyens des universités. Si c'est ça, eh bien, on ne progressera pas dans le domaine de la formation professionnalisante.
Olivier Passeret, universitaire également.
Une expérience personnelle, je pense qu'on doit pouvoir faire des économies dans le fonctionnement des universités et donc pouvoir financer les nouveaux investissements.
Je ne suis pas convaincu que les économies seront à la hauteur des besoins. Non, je ne suis pas d'accord.
Juste un mot sur l'éducation, parce qu'il y a quand même un des enjeux majeurs de ce quinquennat, c'est est-ce que la situation des Français les plus fragiles va être améliorée ou pas, ou va cesser de se détériorer. Là, dans ce domaine-là, en matière d'éducation, ce n'est pas l'éducation supérieure, mais dans le primaire, l'idée d'améliorer la situation des profs qui sont dans des classes difficiles, de réduire les effectifs, ça va quand même là aussi dans le... Je rappelle que c'est quand même le début de la fracture sociale, elle se joue dans le primaire, et que là, il y a des dispositions qui vont quand même, un, dans le bon sens, et deux, qui sont quand même pas totalement inframarginales.
Je vois Dominique Pliant approuver. Pour une fois, on est d'accord, dit-il. Christine Herrel, une dernière mesure qui vous semble importante dans ces domaines-là, hein, que nous avons rapidement parcouru.
Dans les domaines travaillant
sur quoi, lesquels vous souhaitiez faire un commentaire.
Il me semble que, après, ce dont on n'a pas parlé, c'est des logiques de réforme, pour le coup, de la gouvernance ou des institutions qui vont aussi être très importantes, dans la réforme de l'assurance chômage, par exemple, qui est proposée aussi, ou celle des retraites, qui sont des réformes de fond, au sens où on va vraiment modifier le fonctionnement des institutions par rapport à ce qui existe actuellement.
Ouais.
Donc là aussi, il y a des incertitudes sur la manière dont vont être effectivement mises en musique ces propositions de réforme, mais je pense que là, pour le coup, on est sur des choses qui sont quand même en rupture avec ce qui précède. Le fait de la réforme proposée de l'assurance chômage, par exemple, c'est une rupture par rapport à ce qui existe jusqu'à maintenant. Et donc là aussi, l'état des discussions, des négociations avec les partenaires sociaux va aussi être très important pour la mise en œuvre.
Pour les retraites, je dirais qu'il y a on maintient le système par répartition pour le financement des retraites, mais on instaure, et c'est là qu'est la rupture, un système par points, individualisé. Et en soi, ce système-là, quand on le regarde tel qu'il fonctionne dans les pays voisins, c'est pas tout bénéfice pour les retraités. C'est-à-dire que comme il y a des calculs qui sont faits en général pour prendre en compte l'espérance de vie, pour prendre en compte le taux de croissance, etc., par exemple, dans les pays voisins, on s'aperçoit que le pouvoir d'achat des retraités, de ce fait-là, avec ces systèmes à points, a eu plutôt tendance à baisser, d'après les enquêtes qui sont menées notamment par l'OCDE.
Olivier,
il y a une vraie rupture, c'est mon hypothèse, une vraie rupture épistémologique dans la façon dont il appréhende la politique économique. C'est vraiment une position bottom-up. Si vous prenez l'ensemble des dispositions, quel que soit le sujet, il donne quand même un peu plus la priorité à la base que aux décisions prises dans des ministères. Alors bien sûr que ça passe par les ministères, mais il y a un changement de la philosophie économique qui me paraît aller dans le bon sens.
Il n'a pas le temps de réagir.
Puisque Olivier parle des ministères, je voudrais dire une chose. Il y a une des mesures phares qui va être mise en œuvre tout de suite, c'est la moralisation de la vie publique.
Je l'ai cité,
Mais simplement, par rapport au ministère, il va y avoir ce qu'on peut appeler un spoil system. C'est que tous les directeurs d'administration centrale vont être évalués et beaucoup risquent d'être remplacés à la faveur du nouveau gouvernement. Ça, c'est une rupture. C'est une rupture et c'est à l'américaine. Et je pense que ça n'augure pas de bonnes choses par rapport à l'indépendance relative de l'administration centrale.
C'est ce que nous verrons. Merci à tous les trois. Et j'ai quasi volontairement laissé de côté l'Europe dont nous parlons la semaine prochaine, très important, la politique d'Emmanuel Macron et ce qu'elle peut éventuellement apporter ou pas à la zone euro et à l'Union européenne dans son ensemble. Vos chiffres, et on commence bien sûr par Marie Belland des Échos.
Alors j'espère que vous n'êtes pas superstitieux puisque j'ai choisi le chiffre 13.
Alors en début de mandat, c'est bien.
Il s'agit du nombre de branches professionnelles qui à ce jour ont fait homologuer un référentiel de pénibilité par le ministère du Travail. Les derniers ont été publiés cette semaine au Journal officiel. Alors, référentiel de pénibilité, donc de quoi s'agit-il? Vous vous souvenez sûrement donc de la réforme de la pénibilité qui a empoisonné à tout le quinquennat de François Hollande, tant cette réforme a été combattue par les entreprises d'une part et défendue avec la même ferveur par les syndicats de l'autre. Alors, depuis 4 ans, le gouvernement n'a cessé de reculer la date de mise en œuvre de cette réforme, qui a pour objectif, je vous le rappelle, donc de permettre aux salariés qui ont des métiers pénibles de partir plus tôt à la retraite. Alors, au 1er janvier 2015, 4 premiers facteurs de pénibilité sont entrés en vigueur. Le travail de nuit notamment, le travail en équipe alternante, les fameux 3-8. Donc, ils sont assez faciles à mesurer. Au 1er janvier 2016, 6 autres facteurs sont entrés en vigueur. Les postures pénibles, le bruit excessif, l'exposition à des agents chimiques, qui sont beaucoup moins faciles à mesurer, il faut le reconnaître. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une mesure individuelle, donc salarié par salarié, en fonction des tâches accomplies, de la durée passée sur chaque tâche. Donc vous voyez un petit peu le casse-tête que ça peut être. Alors pour faciliter ce travail, le gouvernement a demandé aux branches professionnelles de dresser des référentiels métiers qui devaient permettre aux employeurs d'attribuer des points de pénibilité à leurs salariés sans avoir à mesurer forcément au cas par cas leur exposition à tel ou tel facteur de risque. En somme, le gouvernement, passez-moi l'expression, a refilé la patate chaude aux branches professionnelles. Ça, c'est un peu un grand classique dans les dossiers sociaux quand on ne sait pas trop comment s'y prendre. On demande aux branches de s'en charger. Donc au bout d'un an et demi, où en est-on ? Bien nulle part ou presque, puisque nous n'avons que 13 branches, comme je vous le disais au départ, qui ont fait homologuer leur référentiel. 13 branches sur un total de 700. Voilà. C'est-à-dire un peu plus d'un million de salariés couverts sur 16 millions de salariés dans le privé quand même. Alors pourquoi est-ce si laborieux ? Bon, parce que les référentiels, je vous le dis, sont bien sûr très compliqués à rédiger par les branches professionnelles. Ensuite, parce que les employeurs avancent à reculons sur une réforme qu'ils n'ont jamais voulu, je vous l'ai dit aussi. Mais aussi parce que le nouveau président élu, Emmanuel Macron, a fait savoir pendant la campagne qu'il suspendrait le compte pénibilité qu'il jugeait trop compliqué. Il veut l'intégrer à sa réforme des retraites que vous évoquez, la réforme des retraites par points, mais qui sera effective dans 10 ans. Alors d'ici là, que faire des salariés soumis à l'un des facteurs de pénibilité ? Comment comptabiliser leurs points de pénibilité ? Ce sont des questions sur lesquelles les équipes d'En Marche travaillent d'arrache-pied.
Merci Marie Belland. Et très très vite, d'autres chiffres, Olivier Pastret, tenez.
Vous avez cité 13, moi je vais citer 20 et je vais vous donner 20, c'est 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros, c'est le cumul des bénéfices des banques françaises en 2016. Donc mon ennemi c'est la finance, l'ennemi a l'air de se porter relativement bien. Mais 20 milliards, c'est aussi l'estimation des pertes de recettes liées à l'optimisation fiscale pour la France. Alors corrélation n'est pas causalité en économie, mais c'est amusant de comparer les deux chiffres.
Merci Olivier Pastret, Dominique Plion, alors, mais en deux secondes, merci d'avance.
85 000 milliards d'euros. Alors pour les auditeurs, ça paraît énorme, mais en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça représente la taille de la finance de l'ombre dans le monde, c'est-à-dire 150% du PIB mondial. Et là, il y a un rapport qui est sorti le 10 mai du Conseil de stabilité financière, une autorité financière internationale, qui alerte en disant « Attention, cette finance qui échappe à toute régulation » n'arrête pas de se développer et elle a déjà été à l'origine de la crise en 2007. Est-ce qu'on ne va pas demain au devant de crise à cause de cette finance non régulée? Donc il y a un grand souci.
Beaucoup d'observateurs le craignent. Merci à tous les trois. Dominique Plion qu'on vient d'entendre, Olivier Pastret
et Christine Herrel avec Marie Bélan pour Les Échos. Merci à tous les quatre et à notre petite équipe de réalisation. Laetitia Coya était avec Régis Nicolas aujourd'hui et Laurence Genepin, bien sûr, préparation et documentation. À samedi prochain pour parler de l'Europe. Très très bonne journée à tous et à suivre bien sûr le journal.